Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue aux dizaines de milliers maintenant que vous êtes à visionner ces messages, ces célébrations. Et aussi, nous voulons vous inviter parce qu'il y a plusieurs milliers maintenant qui se joignent aussi tous les matins. Je vous donne rendez-vous à tous les matins de la semaine, du lundi au samedi à 6 h AM. Nous commençons la journée ensemble depuis le début. J'ai vraiment eu à cœur de vous accompagner, qu'on puisse vivre ces moments-là dans un ensemble, dans la parole, dans la présence de Dieu, en prière ensemble à tous les jours. Et alors, vous allez voir à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, vous allez pouvoir vous inscrire pour le recevoir à tous les matins. Nous enregistrons, nous avons enregistré ce message avant le 25 mars et nous l'enregistrons dans une grande salle, dans la salle de l'Église Nouvelle-Vie de 2500 places, vide. Entièrement vide, avec quelques techniciens seulement, alors que nous respectons scrupuleusement toutes les règles sanitaires, les règles de sécurité. Permettez-moi quand même de dire un mot d'affection, un mot d'attention, un mot d'amour, un mot de tout mon cœur aux gens de l'Église Nouvelle-Vie, tant sur Nouvelle-Vie Longueuil, que Nouvelle-Vie La Prairie, que Nouvelle-Vie Nueva Vida, que Nouvelle-Vie Drummondville, et aussi un mot à toutes les églises. Il y a un grand nombre d'églises maintenant francophones qui se sont joints à nous, qui nous ont écrit et se branchent pour que ces messages soient le message qu'ils puissent avoir pour les prochaines semaines. Pendant la crise, plusieurs églises qui n'étaient pas en mesure de présenter ainsi des messages. On vous souhaite la bienvenue. Vous faites partie de la grande famille avec nous maintenant. Et important aussi de souligner, je veux remercier tous les pasteurs et aussi merci de tous ces pasteurs qui se joignent et tellement qui écrivent des mots de reconnaissance, d'appréciation. Merci de nous permettre de se joindre à Nouvelle Vie. Bien, vous faites partie de la famille, c'est une joie pour nous. Et je veux souhaiter aussi une bienvenue toute spéciale à plusieurs milliers de personnes, parce qu'on est à 4, 5, 6, 7 fois plus de personnes maintenant qui suivent le message qu'avant cette crise. Et il y a des milliers de personnes qui découvrent Nouvelle Vie, mais encore plus important, qui découvrent la Bible, qui découvrent la parole de Dieu. Parmi les centaines de courriels qu'on reçoit, une des choses qui revient le plus souvent par des gens qui sont nouveaux avec nous, en ligne, ensemble, c'est des gens qui disent « Je ne réalisais pas, je ne pensais pas que la Bible pouvait être aussi actuelle. Comment ça se fait que les choses de la Bible que vous parlez, les versets de la Bible que vous utilisez semblent coller à notre réalité? » Eh bien, c'est important pour vous de découvrir que la Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Et la Bible adresse toutes sortes de sujets, toute l'expérience humaine en entier. Vous avez des enseignements pertinents lorsqu'ils sont bien compris et bien adaptés et bien enseignés et lorsqu'ils sont contextualisés. Vous avez des enseignements de la Bible pertinents sur chaque étape de la vie. À partir de l'enfance et l'adolescence, et on s'adresse aux jeunes, on s'adresse aux parents, on s'adresse à toutes les relations humaines possibles, toutes les dynamiques relationnelles possibles, toutes les étapes de la vie, les saisons de la vie. La Bible nous parle et nous adresse dans nos saisons de prospérité lorsque tout va bien, mais aussi dans les saisons de pauvreté. Elle parle bien sûr de spiritualité, mais elle parle aussi de choses qui nous concernent en tant que société, en tant que citoyen. Il y a dans la Bible un enseignement très approprié, très profond, très percutant sur des sujets qu'on parle encore aujourd'hui comme l'immigration, l'intégration, l'intolérance versus l'inclusion. Elle adresse toute la gamme des émotions, dans toute la complexité des émotions humaines et des expériences de la vie. La Bible parle de mariage, elle parle de divorce, elle parle de réconciliation, elle parle de séparation, elle parle du rôle du mari, de l'épouse, de l'époux, de l'épouse, des parents, des enfants, comment interagir nos responsabilités envers nos parents, envers les gens que nous côtoyons tous les jours. Elle parle aux employeurs, elle parle aux employés, elle parle de toutes les étapes de la vie. La Bible nous accompagne dans tous les moments de la vie. La Bible a un enseignement sur les moments d'exploit, d'expérience où ça va bien dans nos vies et aussi les moments d'épreuve, les moments de célébration. Peut-être ne savez-vous pas que la Bible est plusieurs enseignements sur comment on doit célébrer la vie, saisir la vie. Il y a des parties dans la Bible qui duraient des semaines entières de chants, de danses, de célébrations, de réjouissances en famille. La Bible nous accompagne et nous équipe à travers les moments de célébration, mais aussi lorsque nous avons besoin de reprendre courage, lorsqu'on se traverse des épreuves. C'est pourquoi aujourd'hui, le message que j'aimerais apporter s'intitule « Reprendre courage face à la COVID-19 ». Reprendre courage face à la COVID-19. Et on va regarder un texte biblique qui est trouvé dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 30, et où vous avez David qui est un homme selon le cœur de Dieu. C'est le David que vous avez déjà entendu parler, qui a battu le géant, c'est David et Goliath. Mais c'est un moment de sa vie où il revient du champ de bataille. Et on va regarder différents aspects de ce courage. Lorsque nous parlons de reprendre courage face à la COVID-19, nous en avons tous bien besoin. On retrouve cette première pensée, le courage quand j'ai l'angoisse dans mon âme. Littéralement, la Bible parle de ces moments où l'angoisse est dans l'âme. Et lorsqu'on regarde à 1 Samuel, chapitre 30, et les versets, le début du chapitre, versets 1 à 4 et 6, « Lorsque David arriva le troisième jour à Tiglag avec ses gens, les Amalékites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé la ville après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. » On lit dans la suite du passage, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était détruite, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Et David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Le courage quand j'ai l'angoisse dans l'âme. On a un contexte ici d'invasion. Il y a une invasion qui prend place. Il y a beaucoup de choses qui avaient été pillées, qui avaient été dépouillées, comme on peut se sentir, nous aussi, en ce moment. En 2020, il y a des choses qui ont été perdues. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leurs économies. On a tous perdu certaines libertés, certaines sécurités. C'était une attaque complètement soudaine, qui était inattendue. C'était une attaque ce qu'ils ressentaient, c'était il n'y a plus rien de normal. Tout a été bouleversé. C'est un moment d'angoisse dans leurs âmes pour eux-mêmes, mais aussi un moment d'attente. Il y a personne qui, vous avez lu dans le texte, il y avait personne qui était mort, mais il y avait une menace qui était là. Il y avait une menace sur leur famille. Il y avait l'angoisse dans leurs âmes pour leur famille, pour leurs parents, les femmes, les enfants. Il y avait ce sentiment que de tout ce qu'on a bâti, c'est comme si tout ce qu'on a bâti peut nous être enlevé. On est en train de perdre tout ce qu'on a bâti au fil des années, toute la sécurité qu'on avait amassée. David et le peuple avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à quelle expression? Pleurer jusqu'à plus avoir la force de pleurer. La Bible dit pleurer jusqu'à tellement d'amertume, de douleur. Le mot amertume ici n'est pas dans un sens d'amertume contre quelqu'un. C'est un mot hébreu qui décrit une souffrance de l'âme. J'avais tellement mal en dedans. Pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes pour pleurer. Et croyez-moi, moi, on a des contacts avec des gens partout dans le monde. Et croyez-moi que ce soit en Chine, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne ou que ce soit en ce moment même en France, il y a des gens qui pleurent avec ses larmes. Il n'y a plus la force de pleurer tellement que ça fait mal. Nos pensées en ce moment sont avec plusieurs amis en France, une église en particulier ou dans une même église. Il y a eu 14 personnes qui ont perdu la vie. 14 personnes qui ont perdu la vie, des gens dans le coma, des gens qui sont gravement malades, les familles qui sont affectées, le pasteur lui-même qui a été violemment malade, qui commence à récupérer. Je veux lui dire à quel point nous prions pour lui, à quel point nous les portons. David a été dans une grande angoisse et avait l'amertume dans son âme, cette souffrance dans son âme. Et remarquez qu'il y avait eu cette attaque. C'était causé par une attaque qui était extérieure. C'était causé par la réalité de l'invasion, réalité de l'attaque qu'il vivait, du dépouillement, de la souffrance extérieure. Mais il y avait quelque chose d'encore plus insidieux et peut-être encore plus douloureux, alors que nous lisons qu'il y avait une attaque qui était de l'intérieur. Mais une attaque extérieure, mais aussi une attaque de l'intérieur. Le texte qu'on vient de lire nous donne cette chronologie des événements où David revient du champ de bataille. Et alors qu'il revient avec tous ses équipiers, ils arrivent au haut de la montagne, ils regardent dans le village, ils voient le village qui est en feu, voient la souffrance, ils courent, tu les vois courir vers le village, tout a été dépouillé. Puis il y a un moment d'unité, de fraternité, un moment de pleurer ensemble. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et eux sont ensemble, et tu peux les imaginer en train de tous ces hommes, imaginez des hommes, le look... C'est tous ces Vikings qui sont là à pleurer ensemble sur leur famille avec l'inquiétude, la mort dans le cœur. Et David fait quelques pas et tout à coup, alors qu'il se recueille de son côté, commence à entendre le son, l'émotion change. Commence à entendre les pleurs se changer en colère, en doigts qui pointent, en accusation. La Bible nous dit que David a entendu les gens dire c'est de sa faute, c'est lui. Les gens commençaient à ramasser des pierres et on parlait de le lapider. Et on peut imaginer David qui dit « Lapider qui? Lapider quoi? » David était celui qui les avait assemblés. David était celui qui les avait sauvés, qui les avait nourris, qui les avait élevés, qui les avait bâtis, qui les avait... Et là, alors qu'il se tourne contre lui dans cette souffrance, ça devait être intolérable. Ça devait être une des portions de l'amertume dans son âme. Et j'aimerais dire ceci, alors qu'il y a des chrétiens partout, à travers la francophonie, à travers la nation du Québec, à travers la francophonie qui visionnait ce message en ce moment, alors que j'ai eu le privilège d'apporter la parole dans plus de 50 pays du monde et certainement une vingtaine de pays francophones. Je veux adresser cette souffrance, cette douleur. Il y a dans les médias sociaux en ce moment, je vais m'adresser à l'Église pendant un instant, des chrétiens qui s'acharnent à attaquer, à critiquer, à blâmer, à chercher blâme, à calomnier, à diffamer des églises ou des leaders, à chercher à... J'aimerais nous appeler, en ce jour où nous vivons des heures si difficiles, j'aimerais nous appeler à l'unité. J'aimerais nous appeler à nous soutenir. J'aimerais nous appeler à lever les yeux un peu. J'aimerais nous appeler à prier les uns pour les autres, à être des sources d'encouragement et d'espoir, à être son corps, à souffrir ensemble. Lorsqu'un membre souffre, nous souffrons ensemble, à nous soutenir ensemble. Parce qu'il y a ce courage que nous avons besoin quand nous avons l'angoisse dans notre âme. Et David nous parle du courage en s'appuyant sur Dieu. Alors qu'il y avait cette angoisse en lui, il a retrouvé une mesure de courage, littéralement en s'appuyant sur Dieu. 1 Samuel, chapitre 30 et le verset 6, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. » Quelle horreur! « Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est important, le mot est particulier, c'est important pour nous de savoir et de se rappeler qu'il y a une source d'encouragement. Il y a un encouragement qui est réel, qui est important au niveau humain. Nous avons la capacité de nous encourager. C'est pour ça que nous le faisons de toutes les façons possibles, avec en ligne, avec la musique, avec le worship que nous vous offrons, avec les méditations que nous vous offrons, avec les textes bibliques, avec des enseignements. En ce moment, à Nouvelle Vie, nous sommes dans une campagne. À tous les jours, il y a des équipes de bénévoles qui font des centaines d'appels, parce que c'est vrai qu'une parole, on doit s'encourager en ce moment. Soyez attentifs, soyez sensibles. Il y a peut-être un voisin de palier, il y a quelqu'un à côté de vous que juste une parole de vous peut encourager. Il y a une mesure d'encouragement qui est latéral, qui est au niveau humain. Mais il y a dans ce texte, le rappel, qu'il y a une mesure d'encouragement de l'âme, de reprendre courage de l'âme qui vient seulement dans une communion avec Dieu, qu'il y a une source insoupçonnée pour certains d'entre vous, inconnue jusqu'à aujourd'hui pour certains et pour d'autres que vous avez connus, que vous avez besoin de revenir dans une communion avec Dieu. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Littéralement, dans l'hébreu original, en s'encourageant en l'Éternel son Dieu. Toute l'expression « repris courage »,« s'encouragea » en Dieu est un mot hébreu qui est le mot « hazak », qui veut dire « s'accrocher »,« saisir », »,« guérir ». Il a été guéri, il a été fortifié, il a été rendu fort. Le mot va apparaître à l'écran avec la description du mot hébreu. Rendre fort, rendre persévérant, se relever, être vaillant, être courageux, trouver la force et le courage. Il s'est fortifié, il a eu accès, il est entré dans une dimension où il y a une force. une force qui est surnaturelle, une force qui est au-delà de la capacité humaine, une force dans notre communion avec Dieu. Jésus a dit, vous allez venir à moi, je vais vous donner du repos pour votre âme. Et vous remarquerez dans la Bible que lorsque vous étudiez la Bible, vous allez réaliser que tous les fois où vous avez, ne vous inquiétez pas, ça sera toujours invariablement accompagné d'un appel à la prière. Dans le célèbre Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, dans les Béatitudes et Matthieu 6, Jésus le dira, « Ne vous inquiétez de rien, mais c'est toujours précédé par « Lorsque vous priez, ne vous inquiétez de rien. » Et Jésus nous donne un enseignement très, très pratique sur comment prier, sur comment on peut prier aujourd'hui en 2020. Il dit dans Matthieu 6, « Priez simplement, priez simplement. » Il met même en garde contre les vaines répétitions, les grandes prières spectaculaires. Prie pas pour être vu ou entendu ou faire des discours. Prie simplement. Quel verset magnifique dans la Bible qu'il y avait un homme qui a parlé, Moïse parlait avec Dieu comme avec un ami, face à face. Alors tu peux prier là où tu es simplement, parler à Dieu. Prier en secret. Il dit, lorsque vous priez, vous allez dans votre lieu secret, vous priez. Ça rappelle à chacun d'entre nous que même si nous ne pouvons pas, en ce moment, être rassemblés, venir prier à l'Église ensemble, tu peux, tu dois, tu peux t'encourager dans l'Éternel, te hazak dans l'Éternel là où tu es. Tu peux le faire dans ta voiture, tu peux le faire dans le train, l'autobus avec tes écouteurs, tu peux le faire à la maison, tu peux le faire dans ton appart, tu peux le faire quelques minutes au travail, tu peux le faire, tu dois entrer dans cette communion-là. Prie en secret, prie simplement, prie sincèrement. Si vous doutez d'à quel point la Bible nous appelle à prier sincèrement, je vous invite à lire les psaumes. Vous allez entendre toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les colères. Dieu n'a pas peur de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux parler et prier sincèrement et prier spécifiquement. Prier spécifiquement en ce moment de prier, de dire, je prie Seigneur pour mes parents, je prie pour cette situation, je prie pour l'état de mon cœur en ce moment, je prie pour ce qui se passe à mon travail, je prie, je t'amène tout ça, je prie pour l'angoisse, la solitude que je vis, le sentiment que je vis actuellement. Prie spécifiquement, sincèrement, en secret, simplement, et prie, Jésus dit, prie souvent. Prie à chaque jour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Demain, il va prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, tu vas prier. Parce que dans cette dynamique où je vais trouver un courage nouveau. Je reprends courage, je reprends force, je reprends foi. Puis je vais vous dire ceci. Il y a une des choses qui est absolument essentielle, c'est que le courage en s'appuyant sur Dieu et le hazak, la communion avec Dieu, est la seule façon que nous pouvons non seulement restaurer notre cœur, notre calme, notre paix, mais restaurer une certaine vision. Une vision spirituelle, une vision de la vie. Il y a un mot que je viens de vous décrire, le mot « hazak » qui parle de la communion avec Dieu. Il y a un autre mot dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui est écrit en français « vision », traduit « vision », qui est le mot « hazon ». Et il n'y a pas, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de « hazon », lorsqu'il n'y a pas de vision, mon peuple est en danger, mon peuple périt. Et alors, peut-être comme à aucun autre moment dans notre histoire, plus avons-nous besoin en ce moment d'avoir une vision autre que ce qu'on voit avec nos yeux humains, d'avoir une vision de ce qui va, de l'après-COVID, une vision de au-delà de nos peurs, au-delà de tous les chiffres de la bourse qui baisse, des infections qui montent, des décès qui montent et des contaminations, de toutes les pressions que nous pouvons vivre. Nous avons besoin d'une vision qui est spirituelle. Il n'y a pas de hazon sans hazak. Et lorsqu'on regarde au livre de 1 Samuel, ce qui est magnifique, c'est que, comme on vient de voir, ce livre de 1 Samuel se termine avec David, qui est un homme public, qui est un homme pour les chrétiens qui regardent un leader du peuple, un leader spirituel, un leader social, un leader gouvernemental, mais aussi un homme de Dieu, un homme public, un homme de la prédication, un homme de l'estrade. Et lui a besoin, il est un homme selon le cœur de Dieu, mais il a besoin de retrouver son courage, de le restaurer, de le renouveler en s'appuyant sur Dieu. Mais 1 Samuel, du début à la fin, a ce même thème. Parce que s'il se termine avec cet homme public qui a besoin de s'encourager, de reprendre courage dans l'Éternel, le livre commence avec une femme. Une femme, on ne peut plus privée. On ne peut plus discrète. Elle n'est pas publique. Elle n'est pas sur l'estrade. Elle n'est pas une décideur gouvernementale. Elle n'est pas la femme que tout le monde regarde. Elle est dans la salle. Elle est perdue. Elle pourrait se penser perdue dans la foule. Elle souffre atrocement dans son cœur. Elle s'appelle Anne. Et dans 1 Samuel 1, nous lisons, 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 et 10, que Anne se leva après qu'on lui mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs, Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Hazak, elle se renouvela en Dieu. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Regardez bien la suite. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie, qui était le sacrificateur, pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Quelle scène hallucinante. Une femme assise parmi le peuple avec la souffrance dans son âme, avec un besoin de reprendre courage face à l'amertume de son âme. Mais la Bible nous dit que si elle était tellement affaiblie que lorsqu'elle a prié, on voyait seulement ses lèvres remuer, qu'on n'entendait même pas sa voix. La Bible dit que chaque larme est recueillie dans le livre de Dieu, que tes larmes sont recueillies, chaque souffle de prière, que personne, tu aurais été assis à côté d'elle, épaule à épaule. Avant notre période de distanciation, tu aurais été assis épaule à épaule à côté d'elle, tu n'aurais même pas entendu cette prière, mais Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Dieu entend ton souffle là où tu es, dans ta voiture, à la maison, dans ton appart, de l'autre côté de cet écran, ton souffle qui monte vers lui. Chaque larme a été recueillie. Il y a quelque chose qui est assez troublant lorsqu'on voit le leader Élie qui est là. Il est le portrait d'un certain leadership religieux qui est déconnecté de la souffrance, insensible. Avez-vous comment est-ce qu'il lui parle brutalement? Il n'a aucune idée de ce qu'elle vit. Et je souffre de voir certains leaders en ce moment sur les réseaux sociaux parler d'une façon comme s'ils étaient complètement déconnectés de où les gens vivent vraiment, de la souffrance. Élie était complètement déconnecté. Elle déverse son âme devant Dieu et il ne le réalise pas. Et peut-être puis-je vous poser la question, est-ce que tu vis quelque chose en ce moment dans ton cœur, dans ton âme, en cette période de pandémie? Est-ce que tu vis une panique, une angoisse qu'en fait personne ne peut comprendre, que les gens les plus près de toi ne comprennent pas? Dieu les comprend, et Dieu t'entend, et Dieu entend ton souffle. Il y a quelque chose qui est arrivé, manquez pas ceci, c'est tellement important. Il y a une paix qui est venue avant la percée. 1 Samuel 1, versets 17 et 18, Élie a repris la parole, il lui a dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Elle s'est encouragée en Dieu, elle s'est appuyée sur Dieu, elle a déversé son âme devant Dieu et elle a été changée intérieurement avant que la situation change extérieurement. La prière ne changera pas instantanément toutes les circonstances de la crise mondiale, ne changera pas tout immédiatement. Je crois que chacune de vos prières change des choses dans chaque situation, mais il n'y aura pas instantanément un changement de toute cette crise qui va arriver à sa fin instantanément parce que j'ai prié. Mais la prière va changer, pas les circonstances, mais complète et instantanée, mais la prière change ton cœur. La prière change ta confiance, change ton calme. Son cœur a changé, son visage a changé, sa disposition a changé, ses communications, son courage a changé. Je n'ai pas le choix et vous n'avez pas le choix. On va le vivre ensemble. On va s'accompagner là-dedans. Mais je n'ai pas le choix, vous n'avez pas le choix à savoir est-ce que je vais traverser cette crise, est-ce que je vais devoir traverser la crise, le temps qu'elle durera de cette pandémie. Je n'ai pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais j'ai le choix de savoir comment je vais la traverser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais laisser mon âme s'effriter, s'assécher, ou est-ce que je vais se troubler, se tourmenter, ou est-ce que je vais m'encourager dans l'Éternel, reprendre courage face à la COVID-19 et avoir mon visage qui change parce que mon cœur change, parce que toute ma disposition change. Une des plus puissantes manifestations et transformation de celui qui trouve et celle qui trouve son courage en Dieu, c'est non seulement que la présence de Dieu, le courage dans sa présence nous apaise, mais c'est seulement dans la présence de Dieu qu'on va trouver aussi un courage, non seulement d'être apaisé pour nous-mêmes, mais un courage afin d'être capable de porter attention à d'autres que nous-mêmes. Un courage que j'appelle le courage face à la COVID-19, un courage qui devient amour, et qui devient amour en action pour ceux qui sont abandonnés. Et ça, c'est assez saisissant. Alors qu'il y a cette attaque, alors qu'il vit cette attaque, alors qu'il a l'amertume dans son âme, alors qu'il prend courage en Dieu, qu'il est apaisé, David arrive et de ce courage où il peut lever les yeux sur lui-même, il va avoir un besoin. Immédiatement après, nous lisons dans 1 Samuel 30, versets 8 et 9, le courage qui devient amour en action pour ceux qui sont abandonnés. Et David consulta, il s'est encouragé dans l'Éternel, verset suivant. Il consulta l'Éternel en disant, est-ce que je vais poursuivre cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. J'aimerais vous dire que c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons en ce moment. Le leadership de l'Église Nouvelle Vie, depuis le début de cette crise, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va? Et nous avons, comme la voix de Dieu qui a mis sur nos cœurs, on n'entend pas des voix, mais la voix de Dieu qui a mis sur nos cœurs, allez-y. Allez-y, communiquez. Allez-y, vous allez délivrer, vous allez apporter. Nous allons respecter toutes les règles et consignes de distanciation, mais nous pouvons aider des gens en ce moment. Nous pouvons aller vers des gens qui ont besoin en ce moment. L'amour en action, le courage qui devient non seulement un apaisement, je suis mieux, je me sens mieux, mais qui m'aide à porter attention à ceux qui sont autour, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive. 1 Samuel 30, verset 11 à 13, le verset suivant. Tout de suite après, est-ce qu'on va y aller? Dieu dit oui, vas-y, avance. J'ai quelque chose pour toi à accomplir pendant cette crise, pendant cette pandémie. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues et sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Si on regarde la suite, car il n'avait pas pris de nourriture, il n'avait pas bu d'eau depuis 3 jours, 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? D'où es-tu? Il est un esclave. Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Alors qu'ils sont fortifiés, alors qu'il vient apaiser son âme, il y a une attention qui monte, il y a un amour pour l'autre, et là, il y a un homme qui apparaît sur son chemin, un homme égyptien. Ce n'est pas quelqu'un qui était de l'intérieur, ce n'était pas quelqu'un de sa gang. En termes modernes, ce n'est pas quelqu'un de l'Église, c'est quelqu'un qui arrive, qui est en danger, qui souffre, qui a été abandonné, a besoin de manger, a besoin des choses les plus élémentaires, de la vie. C'est pour ça que pendant cette pandémie, nous avons continué et nous avons même accéléré, nous avons augmenté notre soutien à l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons, qui la semaine dernière, en ce moment, nourrit des milliers de familles. Distribution, nous avons été reconnus comme un besoin, un service essentiel dans notre communauté. Notre soutien de l'organisme Action Nouvelle Vie, l'organisme a été reconnu comme essentiel dans la communauté. Dans cette dynamique du côté de l'Église, j'ai mentionné un peu plus tôt, campagne de centaines et centaines d'appels téléphoniques, d'aide, de soutien, d'écoute. Le courage qui devient l'amour en action pour celui qui se sent abandonné. Il y a quelque chose de poignant lorsque nous lisons qu'il n'avait pas bu depuis 3 jours. En ce moment, j'aimerais vous dire qu'à l'organisme Action Nouvelle Vie, en ce moment, il y a des scènes qui nous prennent à la gorge. Il y a plusieurs des bénévoles qui sortent bouleversés d'aller avoir été porter de la nourriture en ce moment à des personnes du bel âge ou des gens qui arrivent et littéralement qui n'avaient plus rien. Il y a toutes sortes de circonstances, des immigrants qui étaient entre deux démarches, qui sont des gens qui n'ont plus accès à l'être aidé, des gens qui n'ont plus de services de transport. Nous avons un mandat en ce moment, en tant que simple citoyen du monde, mais encore plus en tant que croyant. Ce qui est intéressant dans ce que nous avons lu, c'est qu'il y avait 3 jours que cet homme était en souffrance, que cet homme était abandonné, parce que vous avez vu ce que nous avons lu au verset 14, il a dit, « J'ai été abandonné parce que j'étais malade. » Il y a littéralement ceux en ce moment qui sont abandonnés parce qu'ils sont vulnérables, ils sont seuls, ils sont laissés, ne peuvent plus être visités physiquement, ont besoin d'aide et de soutien. C'est intéressant parce que c'était depuis 3 jours, et vous vous souvenez du début du texte, 3 jours avant, 3 jours auparavant, David vivait sa pire heure d'angoisse. S'il ne s'était pas abandonné à Dieu, s'il n'avait pas été chercher sa force en Dieu, il se serait recroquevillé sur lui-même, n'aurait jamais vu. Alors que lui souffrait et qu'il est allé chercher ses forces en Dieu, il y avait un homme qui était là au même moment qui avait besoin de lui. J'ai reçu, on reçoit des centaines de courriels en ce moment, j'en ai reçu un qui représente beaucoup de gens en ce moment qui ont compris que c'est un moment pour tendre une main, c'est un moment pour être présent, c'est un moment où il peut y avoir une distanciation qui doit être observée, mais nous pouvons aider de toutes sortes de façons. Alors, j'ai reçu ce courriel. Bon matin, Nouvelle Vie. Hier, une dame qui écrit, « Hier, j'ai quelqu'un qui a communiqué avec moi par mon Facebook. Elle avait besoin de nourriture, confinée chez elle, sans argent, malade, ne pouvant pas sortir. Elle a manqué sa chance d'aller à son comptoir alimentaire. N'ayant que peu de ressources moi-même, j'ai fait un appel sur mon Facebook personnel sans savoir ce que ça donnerait. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé pour offrir leur aide. J'ai été grandement touché. Nous avons pu ensemble, elle écrit, nous avons pu ensemble livrer de la nourriture à cette dame à sa porte. Quand je suis revenu chez moi, d'autres personnes avaient manifesté leur intérêt à aider. C'est comme un mouvement qui se lève. Alors, elle nous écrit, donc, si vous connaissez quelqu'un, puis elle nomme sa ville, qui est dans la même situation, malade, sans argent et confiné, je crois que nous allons pouvoir faire plusieurs autres paniers. Bonne journée. Et en passant, vous me rendez fier d'appartenir à la famille Nouvelle Vie. Et mon mari et moi allons à Nouvelle Vie, Drummondville. Et je crois qu'il y a un mouvement en ce moment du courage qui devient amour en action pour ceux qui sont abandonnés. Le courage aussi qui nous affermira jusqu'au retour de l'abondance. Un courage qui va nous affermir jusqu'au retour de l'abondance. 1 Samuel 30, la suite, versets 17 à 20. David Libra combat depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Il ramena le trésor en entier, tout ce qui avait été volé. Tout le peuple s'écriait, voici, regarde le trésor, regarde l'abondance, voici la récompense, le trésor de David. En tant que chrétien nord-américain, et européen aussi dans les derniers 20-30 ans, mais en tant que chrétien nord-américain, nous n'avons, pour la majorité d'entre nous, nous n'avons pas eu à vivre notre foi dans des périodes de crise telles que nous vivons en ce moment. Nous avons été épargnés dans les derniers 20, 30, 40 ans. Lorsqu'on lisait ou entendait parler de l'Ebola ou du SRAS, du 11 septembre ou du tremblement de terre en Haïti, ou des guerres à un endroit ou à un autre, elles ne nous touchaient pas directement. Des chrétiens sont mobilisés ici à Nouvelle-Vie, on est mobilisés à nous nous impliquons dans la mission humanitaire mondialement, mais il y a quelque chose qui est quand même loin. Ça touchait nos cœurs lorsqu'on lit les camps de réfugiés et tout le reste. Mais ça ne nous affectait pas dans notre vie de tous les jours. À travers l'histoire des chrétiens, l'Église chrétienne était présente, et pas seulement à travers l'histoire, à travers le monde, en ce moment, dans les derniers 10, 5 ans, 2 ans, les dernières décennies, et partout dans le monde actuellement, nous vivons ensemble. Il y a quelque chose qui prend place, et David, l'homme selon le cœur de Dieu, a puisé son courage dans le rappel que quelles que soient les crises passées et la longueur des combats. Lorsque vous lisez dans la Bible l'expression hébraïque, le combat dura de l'aube d'un jour jusqu'au soir et jusqu'au lendemain, ça parle de combats qui sont longs, qui épuisent, qui nous usent. Et cette bataille, ce combat, cette période, cette crise avec le COVID-19 risque de durer, risque de nous amener dans des sphères de demande de force et de patience qu'on n'a jamais expérimenté comme chrétien. Notre foi va être mise au test. Notre confiance en Dieu, notre capacité à être portée par Dieu. David a dit, j'étais jeune et je suis devenu plus âgé, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il a dit dans le psaumeliste a dit dans le psaume 65, venez, et je vous raconterai tout ce qu'il a fait pour mon âme. Nous avons passé par le feu, nous avons passé par l'eau, nous étions pris comme dans des filets. Nous avons porté des fardeaux qui étaient les plus lourds de nos vies, mais Dieu nous en a tirés pour nous faire vivre encore plus d'abondance. Et c'est ce qui est arrivé avec David. Après toute la traversée, le combat qui est long, la traversée de l'épreuve, il y a une abondance qui a pris place, il y a un retour de l'abondance. Joseph, dans l'Ancien Testament, a dit, « Tout ce que moi j'avais perçu pour le mal, Dieu en fait la tournée pour le bien. » L'apôtre Paul lui dira, nous savons dans Romains 8, il dira, « Nous savons du reste que toute chose, oui, toute chose, même ce qu'on traverse en ce moment, que toute chose concourt, conduit vers le bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon ses desseins. Et Paul dira, nous dans le même texte, Romains 8, nous savons que dans toutes ces choses, alors que nous les vivons, on va être exemptés de toutes ces choses, alors que nous sommes dedans, que nous vivons toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Que Dieu va donner des victoires, Dieu va donner... Et moi, j'ai eu le privilège, en voyageant dans plus de 50 pays du monde, de côtoyer des chrétiens qui ont vécu, les églises chrétiennes, les croyants qui ont vécu, que ce soit en Égypte, ou que ce soit lorsque j'ai été dans la bande de Gaza, ou que ce soit lorsque j'ai été dans des pays post-génocidaires, le Rwanda, le Burundi post-génocidaire, de voir des gens qui avaient connu des saisons terribles, mais toujours, leur confiance, leur courage fortifié, affermi par le fait qu'il y a toujours un retour à l'abondance, que Dieu va toujours tourner à sa gloire, que le courage qui nous appelle à nous approcher, et je termine avec cette pensée, et à accueillir ceux qui, à bout de force, s'avancent vers nous. Comme c'est magnifique. Le courage, quand j'ai l'angoisse dans l'âme, en s'appuyant sur Dieu, le courage qui devient amour en action pour ceux qui sont abandonnés, le courage qui nous affermira jusqu'au retour de l'abondance, et le courage qui nous appelle à nous approcher et à accueillir ceux qui, à bout de force, s'avancent vers nous. Dernier texte, 1 Samuel, chapitre 30, le même texte, les versets suivants, versets 21 et 22, où nous lisons, « David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre, et on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ça va, comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient alliés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien de la richesse, du butin, de la bénédiction que nous avons sauvée, sinon à chacun, sa femme et à ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Il y a quelque chose de troublant dans ce texte. Il y a un portrait prophétique, en fait, de deux courants, de deux types de chrétiens, deux types d'églises, deux types de mouvements d'église dans les temps que nous vivons, dans les temps d'épreuve, dans les temps où on traverse ces pandémies. Il y avait dans le texte qu'on vient de lire une multitude qui n'avait jamais suivi le Seigneur, qui ne s'était jamais approché du peuple de Dieu, n'avait pas suivi le Seigneur. Un peuple qui maintenant s'avance vers eux. Il y a une distanciation sociale aujourd'hui, à notre époque, qui va produire un désir spirituel. Je vous annonce, je vous prédis, pour ne pas prendre le terme, je vous prophétise qu'il y a des multitudes de gens qui ne suivaient pas, qui étaient éloignés, mais qui vont commencer à s'approcher, à s'avancer vers nous, à s'avancer. Vous êtes là, de l'autre côté de l'écran, vous êtes là à regarder ce message que vous ne gardiez jamais auparavant. Des gens qui, en ce moment, s'approchent. Des gens qui ne s'est jamais approchés auparavant, qui s'approchent du peuple de Dieu, du royaume de Dieu. Et il y a une église, vous l'avez vu, il y a un peuple qui est tellement focalisé sur eux, sur leur bien, que même lorsque la tempête finit, parce que cette tempête va finir, parce que cette pandémie va se terminer, on va arriver de l'autre côté. Mais là, même lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, tout de suite, se retournent sur eux-mêmes. Ils n'étaient pas avec nous. Ils ne suivaient pas avec nous. On va s'occuper maintenant de moi. Ma bénédiction, mon blessing club, nos choses entre nous. Mais il y a un autre peuple, je prie que nous en faisions partie, qui a ce courage qui nous appelle à approcher et à accueillir ensemble ceux qui maintenant viennent. Le verset 21, « Et David s'approcha de tous les hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre, mais qui maintenant s'avançaient à sa rencontre et à celle du peuple qui était avec lui. » Le dernier texte, il y a cet appel extraordinaire. Et j'aimerais terminer en vous disant que la distanciation va cesser dans quelques mois. Des milliers qui vont avoir entendu le message et vu l'Église briller, vu l'Église aimer sans condition, vu l'Église être forte et des croyants, des gens qui subissaient les mêmes choses, être portés, être fortifiés, être habités d'un calme, d'une générosité, d'une paix, d'un esprit, d'un espoir dont ils ont tellement soif, il y a une multitude qui vont s'avancer à la rencontre, à notre rencontre, à la rencontre du message que nous avons, du Seigneur que nous servons. Et notre appel ensemble, c'est les mots de David, les derniers deux passages de versets 23 et 24, où il dit à ceux qui veulent juste se tourner sur eux-mêmes, « Non, n'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné. car il nous a gardés et nous a donné la victoire contre cet ennemi qui était venu contre nous. Ensemble, nous partagerons cette bénédiction. Si c'est possible, là où vous êtes, à la maison, où vous entendez le message, vous regardez, vous le visionnez, entendez ces mots. Ensemble. Ensemble, nous partagerons cette bénédiction. Ensemble, ce que nous avons reçu de Dieu, nous allons le partager avec des multitudes. L'Église chrétienne est née dans les Actes des Apôtres avec ces mots. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il est possible d'être dans un même lieu, de ne pas être ensemble. Mais il est aussi possible, et on le vit actuellement, on le vit en ce moment, il est aussi possible de ne pas être dans un même lieu, mais de vraiment être ensemble. Et nous, je vous annonce, je vous déclare, je vous promets qu'il y a des multitudes qui s'en viennent, des multitudes qui s'en viennent à la rencontre, qui n'avaient pas suivi auparavant, mais qui maintenant vont venir, sont attirés. Ensemble, c'est le mouvement d'une communauté qui veut briller dans un monde qui traverse une période sombre. Nous voulons faire une différence alors que la crise du COVID-19 sévit partout dans le monde. Ensemble, nous voulons prendre soin des personnes les plus vulnérables et pour faire en sorte que cette crise soit l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau départ spirituel, mais aussi dans nos relations, dans nos créations. Ensemble, c'est une bannière, c'est un cri de ralliement, un engagement à mettre en place tous les moyens nécessaires pour renforcer nos liens, pour nous serrer les coudes, pour grandir ensemble. Ensemble, c'est un mouvement, c'est un cri de ralliement, c'est un engagement à s'aimer les uns les autres. Ensemble, parce que l'Église avec un grand E, c'est avant tout une communauté. Ensemble, parce que la crise ne saurait nous séparer. Ensemble, parce que alors que nos réalités individuelles, nos interrogations sont plus que jamais similaires, voire identiques. Nous vivons les mêmes choses. Confinés, seuls, anxieux, face à l'incertitude mondiale, en recherche de ce qui pourrait fortifier notre courage. Ensemble, encourageons-nous à revenir à l'essentiel, nos relations, celles avec Dieu et les uns avec les autres. Ensemble, par l'intentionnalité de nos communications, par notre réel désir de connexion et d'entraide tangible, humaine, sans condition. Ensemble, prenons une pause quotidienne pour faire les choses différemment. Appeler ou aider quelqu'un de notre entourage, proche ou loin. Ensemble, prions et brisons l'isolement. Ensemble, faisons la différence auprès des personnes les plus vulnérables. Ensemble, l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ensemble, c'est un mouvement à lequel nous t'invitons. Unissons-nous ensemble. Alors, ceux qui n'avaient pas encore suivi s'approchèrent et s'avancèrent à la rencontre d'eux. Je ne peux pas terminer ce message sans t'offrir de t'approcher dès maintenant. Dès maintenant, là où tu es, tu peux t'approcher à la rencontre. Pas d'une église seulement, pas d'une église, pas d'un pasteur, mais t'approcher à la rencontre de Dieu. T'approcher à la rencontre de Jésus. T'approcher avec toute simplicité. C'est aussi simple que Jésus qui tend ses bras vers toi, qui te dit simplement « ouvre ton cœur ». C'est aussi simple que l'épître, le plus grand théologien de tous les temps, qui le décrit de cette façon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé parce qu'on confesse, c'est en confessant de la bouche et c'est en croyant avec le cœur que nous pouvons maintenant venir à Dieu ou revenir à lui. Ensemble, vous pouvez maintenant vous avancer à la rencontre de Jésus. On va être là ensemble pour t'accueillir, t'accueillir dans la famille de Dieu. Alors, vous me permettrez de prendre un instant pour prier pour vous, prier pour toi, là où tu es. De l'autre côté de l'écran, maintenant, tu peux t'approcher à la rencontre de celui qui change tout. Seigneur, nous venons à ta rencontre aujourd'hui. Je te prie pour chaque personne qui visionne ou entend ce message. Que tu puisses, Seigneur, te révéler, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, qu'ils puissent te dire simplement, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, tous mes manquements, tout péché qui m'a éloigné de toi. Je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. J'accepte ton pardon, ton amour pour moi. Seigneur, fais de moi une nouvelle personne. Que les choses anciennes soient passées. Que toutes choses deviennent nouvelle, je viens à ta rencontre, je m'approche de toi. Viens maintenant, Seigneur, viens maintenant écrire mon nom dans le livre de vie. Viens maintenant changer ma vie pour toujours, au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit que s'il y avait une seule personne qui avait fait cette prière, que tout le ciel éclaterait en applaudissements et en ovations parce que ça change ta vie pour toujours. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il y a tellement d'entre vous qui avaient fait cette prière, qui avaient pris cette décision. Et je veux également vous appeler. Nous allons chanter en ce moment « Nul autre nom ». L'équipe de louanges va nous conduire dans ce chant magnifique. « Nul autre nom que le nom de Jésus peut sauver, peut consoler, peut fortifier ». Et aujourd'hui, je vais vous inviter aussi, tous les croyants qui regardent cette célébration en ce moment, je vais vous inviter à reprendre courage. À reprendre courage face au COVID-19. Le courage, si vous aviez l'angoisse dans votre âme, le courage en vous appuyant, en vous encourageant sur l'Éternel, votre Dieu. Le courage qui va vous fortifier, vous affermir jusqu'au retour de l'abondance. Le courage de lever les yeux de nous-mêmes et d'être, devenir amour en action. Et le courage d'accueillir tous ces gens que le Seigneur va conduire vers nous. Je vais vous souhaiter une super semaine dans la présence de Dieu. Et pendant un moment, dans la fin de ce message, alors que l'équipe de louanges chante ce chant magnifique, nul autre nom que le nom de Jésus, tournez-vous vers lui. Là où vous êtes, vous pouvez louer, vous pouvez l'adorer. Là où vous êtes, vous pouvez vous approcher de lui. Nul autre nom que le nom de Jésus.